tous. Bienvenue dans la librairie Jean Calvin. Bienvenue à Daniel Travier. Nous remercions d'avoir accepté notre invitation et de nous faire l'honneur d'être parmi nous présents ce soir. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première rencontre au coin du livre de la saison 2011. Alors, cette année, c'est un peu spécial, puisqu'on s'est calé donc, sur le programme de la médiathèque pour certaines circonstances pratiques. Et donc, notre saison ne dure que 6 mois, de janvier à juin. Et puis, l'année prochaine, on reprendra un cycle scolaire, on va dire. Donc, on fera un cycle allant de septembre 2011 à juin 2012. Donc, pour cette année, c'est un peu spécial. Il y aura moins de rencontres et donc aussi moins de conférences. Alors, je rappelle le principe de ces rencontres au coin du livre. Le principe des rencontres au coin du livre, ça n'est pas forcément de parler d'un livre. Alors, Daniel Travier a écrit, a contribué à de nombreux ouvrages, mais le but de ce soir, ce n'est pas forcément donc de parler d'un livre, c'est de se retrouver au milieu de la librairie. Alors, on avait souhaité au départ être au milieu des livres, mais ça n'est plus possible parce qu'on est nombreux. Mais le but étant donc d'être au milieu de la librairie pour redécouvrir l'espace de la librairie, non plus comme un espace seulement commercial, mais on a envie de faire découvrir la librairie comme un espace avant tout d'échange, de dialogue, de rencontres, de partage, de connaissances, d'avis, et ainsi de suite. Donc, c'est le but de ces rencontres. Évidemment, ce qui a nourri cette idée, ce sont les vieilles rencontres qui se faisaient dans les campagnes françaises, il y a une trentaine, une cinquantaine d'années, les veillées au coin du feu. On a remplacé le feu par les livres. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de brûler tous les livres, on vous a bien compris, mais donc d'être dans cet espace convivial. Alors, ce soir, nous recevons donc Daniel Travier, directeur du musée des Vallées Cévenoles, entre autres, puisqu'il a bien d'autres casquettes, bien d'autres responsabilités, ici, au sein de notre région. Et il vient donc ce soir nous parler du musée, évidemment, des Vallées Cévenoles, de son développement, de ses perspectives, et en montrant aussi comment son parcours personnel, son histoire personnelle, son héritage aussi protestant l'a conduit donc dans le développement de ce projet, la mise en place de ce projet, puis son développement et puis aujourd'hui donc dans les nouvelles perspectives du musée des Vallées Cévenoles. Voilà. Donc après cette introduction, je lui laisse tout de suite la parole.
Merci. Bonsoir. Alors bon, Monsieur Belloir m'a demandé un exercice auquel je ne suis pas très habitué. Puisque dans son mail qui sollicitait cette intervention, il me disait que je devais essayer de faire reconnaître mon parcours, mon investissement dans le musée des Vallées Cévenoles et vous éclairer sur comment le protestantisme a orienté ma vie. Donc effectivement, c'est un exercice un peu personnel, j'aime pas beaucoup parler de moi, et en même temps, c'est aussi un témoignage, et donc voilà, j'ai accepté le challenge. Alors j'ai un défaut, un gros défaut, je suis très bavard, donc je risque d'être peut-être un peu long dans cette première partie, puisqu'après je crois qu'on aura peut-être des échanges, donc je vais quand même essayer de tenir...
C'est correct.
Et donc, je ferai cette présentation en 6 points. Le premier évoquera mes racines. Le second, un certain nombre d'influences de personnalités qui, finalement, ont suscité cette vocation, je l'appelle comme ça. Puis des décisions personnelles qui m'ont, à un moment donné, été données de prendre. Les grandes dates après du musée, et donc, puisque nos histoires se confondent, avec donc, cette première partie d'un musée associatif, très amateur, et puis 82, l'institutionnalisation de cet espace, et enfin, dernière partie, un dernier choix, 2002, et le projet de Maison Rouge. Alors, les racines. Mes racines, ben, je suis né dans une vieille famille cévenole, protestante, très profondément enracinée à Saint-Jean-du-Gard. En effet, mes ancêtres Travier se sont installés à Saint-Jean-du-Gard à la fin du XVIe ou début XVIIe siècle comme fermiers à Marcassard, au château de Marcassard. Mais il ne venait pas de très loin, l'origine familiale étant le mas de Gravoulière, près de Payères, au pied de la Grande Payères. Et peut-être même le berceau des Traviers était-il de l'autre côté de la Grande Payères, au hameau qui, depuis l'époque romaine, s'appelle Traviargue. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus. Et la concentration de ce patronyme se situe entre Toiras, Anduz, La Salle et Saint-Jean, ce qui montre donc cette origine très, très précise. Alors, comme ceux qui sont installés comme fermiers, je disais, mais comme ça se passait à l'époque, il y a un des enfants qui reprenait la succession du père, qu'il soit propriétaire ou fermier, il reprenait soit la ferme, soit l'exploitation s'ils en étaient propriétaires, et les autres enfants, bon, les filles ont essayé de les bien les doter, enfin, bien plus ou moins de les marier. Quant aux garçons, on leur apprenait un métier. Et un de mes ancêtres, donc la fin du enfin, milieu du XVIIe siècle, a été tisserand de laine. Et ils se sont installés, son fils, après la révocation, s'est installé dans le village de Saint-Jean-du-Gard, en faisant l'acquisition d'une maison qui avait une histoire un peu extraordinaire. Elle avait été construite en 1562 à la démolition de l'église catholique avec les matériaux de l'église, les protestants ayant détruit, ne laissant subsister que le clocher, mais toute la vieille église romane a disparu à ce moment-là. Et on avait construit cette maison qui a servi rez-de-chaussée pour servir la messe. Il y avait 15 à 16 familles catholiques encore à Saint-Jean. Et au premier étage habitait le vicaire. Et puis à la révocation de l'édit de Nantes, on a démoli le temple, construit une église catholique en 1686. Donc les catholiques ont abandonné cette maison et ma famille en a fait l'acquisition. Et donc ce sont des tisseurs qui s'installent dans cette maison. Or ça, c'est la maison familiale que j'habite encore et ça fait une dizaine de générations de Traviers qui sont nés dans cette maison. C'est dire cet enracinement précis. Au XVIIIe siècle, ils sont passés de la laine, avec le grand développement de la soie, ils sont passés de la laine aux déchets de soie, aux bourrettes, aux filoselles, on les appelait les bourretaires, ces tisseurs particuliers qui tissaient les déchets de soie. Et mon arrière-grand-père a été dans cette maison le dernier tisseur de soie, tisseur de filoselles de cette région. Donc, ma famille est enracinée dans le protestantisme depuis très, très longtemps, autant que je puisse remonter. C'est l'état civil du désert qui me permet, ou les contrats de mariage devant notaire, donc ils appartiennent à l'Église réformée et sont protestants au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, époque où je les suis. Sont membres du consistoire au XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand les consistoires se réorganisent, ils sont membres de père en fils du consistoire. Et puis, avec le mouvement du réveil, mon arrière-grand-père, ce tisseur de filoselles, qui était aussi un prédicateur laïque, adhère à l'église libre de Saint-Jean-du-Gard. Alors, un mot sur l'union des églises libres, parce que bon, ce monde protestant est effectivement extrêmement compliqué. Donc peut-être pour situer un peu les choses, j'en dis juste un mot. L'union des églises évangéliques libres est née d'une scission de l'Église réformée de l'Église réformée de France en 1849, qui a suivi en 1848 le premier synode officieux des églises où il y a eu une grande discussion entre libéraux et orthodoxes. Et dans les orthodoxes, il y avait deux camps. Un camp mené en gros par Adolphe Monod, donc à connotation très, très revivaliste et très évangélique, mais qui ne voulait pas sortir de l'Église réformée, disant si le sel s'en va, il ne restera rien. Et puis il y avait une tendance un peu plus dure, représentée par son frère Frédéric Monod et le comte Agénor de Gasparet. Et puis la partie libérale était menée par le pasteur Fontanès de Nîmes et Athanase Coquerel fils. Et dès l'introduction, dès l'entrée au début de ce synode officieux, qui n'était pas reconnu par l'État, une question a déchiré les membres de ce synode, la question de la confession de foi. Les libéraux n'en voulant pas, disant que le dogme entravait la liberté, les orthodoxes qui voulaient rester dans l'Église réformée disaient « mais on en a une, même si elle est plus en vigueur, c'est la confession de foi de La Rochelle », et les plus catégoriques disant « ouais, mais il faut le réaffirmer, la confession de foi de La Rochelle est d'accord, mais il faut la réaffirmer comme étant notre profession de foi aujourd'hui ». Et puis, c'est les libéraux qui étaient majoritaires, ils ont perdu, et donc les plus Coquerel, Gasparin et Frédéric Monod donc, ont quitté le synode et ont créé une autre union d'église. Alors, ils ont été peu nombreux à quitter le synode, puisque une majorité des orthodoxes étaient quand même favorables au maintien dans l'église réformée. Ils étaient assez, peut-être peu nombreux, mais se sont regroupés avec eux un certain nombre d'églises évangéliques qui étaient indépendantes. Et donc, s'est créée comme ça l'Union des églises évangéliques, qui est devenue libre quelques mois ou quelques années après, dans ce sens qu'ils sont sortis du concordat, et donc c'était libre et indépendant vis-à-vis de l'État. Et donc, aujourd'hui, après la loi de 1905, après la séparation de l'Église de l'État, ce nom de libre fait un peu bizarre. C'est pour ça qu'il faut un peu l'expliquer. Mais en fait, c'est qu'à cette époque-là, l'Église réformée, l'Église nationale, dépendait de l'État, mise en place par les articles organiques donnés par Napoléon au moment du Concordat. Et donc, cette union d'églises issue donc de l'Église réformée est une église, comme le disait lui-même Frédéric Monod, confessante, c'est-à-dire que ceux qui... bien sûr, c'est la parole de Dieu qui est la base de l'Église, mais en plus, il y a un engagement précis dans cette confession de foi. Et en plus... cette église confessante est constituée de professants par opposition à l'église multitudiniste, c'est-à-dire que sont membres ceux qui professent leur foi et une foi personnelle. Et donc, j'ai été éduqué dans cette église à laquelle j'appartiens toujours. Alors, les influences des personnalités qui ont suscité ma vocation, il y a au premier chef mon grand-père Raoul Travier, qui est le fils donc du dernier tisseur, donc il n'a pas pris la succession de son père. C'était un pluriactif, comme beaucoup de Cévenols, paysan et travaillant dans l'administration. Il a été convoyeur des postes et en même temps matelassier. Il refaisait des matelas. Et moi, les souvenirs que j'en ai, il était à la retraite et donc je ne l'ai pas connu employé des postes, mais seulement paysan et matelassier. Et donc, être matelassier, c'est un métier qui donne beaucoup de disponibilité et beaucoup de temps. Vous avez une table, un matelas, de laine, et puis on coud, et donc on est assis, et on peut parler, il y a l'attention peut-être. Et donc, j'ai passé énormément de temps, tous mes jeudis après-midi quasiment, à écouter ce grand-père qui était un conteur absolument fabuleux, qui me racontait ses propres histoires, sa guerre de 14. Mais ça, je crois qu'on est nombreux à avoir entendu un grand-père qui parlait de la guerre de 14, mais aussi l'histoire de la famille, cette histoire à l'époque des persécutions. Alors, dans son esprit, comme dans beaucoup de ses venoles, tout ça, c'est l'histoire des Camisards. De la révocation de l'édit de Nantes à l'édit de tolérance, c'est les Camisards. Mais, donc, me racontait cet ancêtre qui te conseille de presbytère à faire consistoire, etc. Mais qui racontait aussi les faits de guerre de ses ancêtres qui avaient fait 14 ans de guerre sous l'Empire, sous Napoléon, et qui étaient dans la garde impériale et très proche de la personne de l'empereur. Et donc, il avait ses souvenirs qu'il savait par cœur parce qu'il avait bien connu ce grand-père mort très âgé à 95 ou 96 ans, donc il avait bien connu, il avait raconté ses batailles. C'était son seul sujet de conversation à cet ancêtre, c'était ses batailles, ses voilà, Yénard marchait dans le sang jusqu'au genou. Tilsit, entrevue entre Napoléon et Alexandre de Russie, où il avait transporté le bois qui avait servi à faire le radeau pour que les deux empereurs se rencontrent. Et puis il avait été passé en revue par les deux empereurs et Napoléon lui avait tiré l'oreille. Il avait été proposé pour la Légion d'honneur, qu'il avait eu d'ailleurs. Bon, voilà, mon grand-père était fier de me montrer la Légion d'honneur de son grand-père. Et puis là, le passage de la Bérézina, où il est passé au milieu des glaces, sur les cadavres des chauves, etc. Toutes ces histoires, on peut faire. Qui pour moi, à gosse, était bon, un peu de fantastique, un peu des histoires tout à fait extraordinaires. Mais en même temps, il m'a appris la langue, parce qu'il parlait bien le français, mais il aimait énormément ce que j'appelle aujourd'hui l'occitan. Il ne comprendrait pas peut-être si j'employais ce terme. Pour lui, c'était sa langue. Il ne se posait pas de questions de graphie ni de questions linguistiques. Et donc, il m'a appris sa langue au travers de proverbes, d'expressions. Et puis, il me parlait, quand les paysans venaient le mardi ou ses clients, il parlait toujours patois. Et donc, voilà, il m'a appris le patois. Il m'a parlé aussi beaucoup de l'histoire des Cévennes, de l'agriculture, ce qu'il faisait, comment il le faisait, pourquoi il le faisait. Et puis, enfin, il avait une culture religieuse qu'il a essayé de me transmettre. D'abord, avec les chants du réveil, on chantait toujours dans la paroisse, et qui chantait très faux. Mais il n'empêche qu'il me chantait ces chants, dont un en particulier qui était fondamental pour lui. D'aucuns connaissent peut-être, redites-moi l'histoire de la mort de Jésus, redites-moi l'histoire de la crèche à la croix, etc. Donc ça, c'est, voilà, c'est ce genre de choses qu'il me racontait. Il me racontait aussi, donc avec ses cantiques, des histoires bibliques. Alors j'allais à l'école biblique, on appelait ça l'écolette à l'époque. Mais lui, il avait une façon, parce que c'était un conteur, de raconter ces choses de façon absolument extraordinaire. Et chantait David n'avait rien que sa fronde de me raconter l'histoire de David en insistant sur le fait que si David avait gagné, c'est parce qu'il plaçait sa confiance en Dieu. Et donc il y avait toujours une leçon qui n'était pas une prédication, mais une leçon qui tirait sur des valeurs chrétiennes et liées à sa foi. Il me racontait aussi très souvent, parce qu'il fallait nous éduquer un peu, polisson, comme tous les enfants, l'histoire d'Élisée avec les enfants qui lui crient dessus, monte chauve, etc. Et puis les ours qui viennent et qui déchirent les enfants qui sont punis. Et donc ça, pour nous apprendre le respect des personnes âgées, le respect de l'autre, d'une façon générale. Et je crois que mon grand-père, et j'avais 12 ans quand il est mort, mais déjà m'a appris ce qu'était le respect de soi-même d'abord, et le respect des autres, et tout ça, dans un concept de ses valeurs liées à sa foi. Ensuite, comme autre personnalité qui a eu une grande influence sur moi, il y a les anciennes de la Haute Vallée-Borne. Mon père avait fait l'acquisition d'une propriété qui était à des amis de mes grands-parents, justement, et ma mère étant professeure, elle avait beaucoup de vacances, et nous montions dans cette Haute Vallée-Borne, au-dessus de Saint-André-de-Valborgne, donc ces lieux, le Fontanieu, le Pomarès, Mas Supérieur, le Mazillou, etc., entre Saint-André et Bassurel. Donc on passait là tous les mois de l'été. J'allais aussi un peu au camp Vautou puis Équerreur, mais on passait beaucoup de temps là. Et comme j'étais le troisième enfant avec une différence d'âge importante, on avait 8 ans de différence avec 8 et 9 ans avec mes frères aînés, donc j'étais un peu tout seul. Et il y avait bien sûr les enfants du hameau avec qui je m'amusais, mais j'aimais beaucoup aller rencontrer les anciens, ces personnes qui étaient nées de l'autre siècle, des années 1870, 1875. Et donc j'ai beaucoup appris, là, avec, encore tout jeune, hein, à 22 ans, de ces personnes-là, et notamment d'une petite vieille toute recroquevillée qui était infirme. Elle avait des mains paralysées. Elle allait chercher son seau à la fontaine, qui était à 500 mètres de sa maison à peu près, et elle pâtissait tellement que quand elle revenait, le seau était à moitié vide. Donc elle repartait pour faire un autre demi-voyage de son seau. Elle était borgne, elle avait perdu un œil. Et elle avait une histoire extraordinaire qu'elle me racontait alors que j'avais 4, 5 ans, 6 ans, enfin, je veux dire, qu'elle m'a raconté X fois. Moment de la guerre de 14, ses deux fils ont été mobilisés. Donc ses fils, qui, c'était une des belles propriétés du lieu, parce qu'encore la soie marchait bien. Il y avait beaucoup de mûriers, beaucoup de verres à soie, et c'était encore une des bonnes propriétés du territoire. Et les deux fils partent à la guerre de 14, et puis en 14, il y en a un qui décède. Et c'était une époque où on ne rapatriait pas les corps. Et elle est partie avec son mari sur le front. Elle a trouvé la tombe sur les lieux donc de bataille, ces cimetières militaires, hein, qui étaient, puisqu'ils étaient ensevelis sur place. Et là, ils ont récupéré les restes mortels de leur fils, qu'ils ont mis dans une malle. Et ils ont ramené ça à la maison. Et en passant ce qui était la frontière du front, il fallait voir ce qui se passait, ils ont déclaré ça comme souvenir du front. En effet, les soldats faisaient avec les étuis, les douilles des obus, des petits objets en cuivre qui étaient vendus après à l'intérieur et qui leur faisaient un peu d'argent sur le front. Et donc, ils se sont présentés comme des gens qui vendaient des bibelots et des. Voilà, et ils ramenaient ça comme un souvenir du front. Quel souvenir du front! Et donc, ils ont placé cette malle dans la chambre de leur fils. Et l'année d'après, l'autre fils est décédé. Et ça a été un drame énorme pour ses deux parents. Et en 21, le corps du second fils a été rapatrié. Et dans la nuit, ils ont ouvert le cercueil, mis les restes mortels du premier avec le second, et ils ont enseveli leurs deux enfants. Et ce que quelques années plus tard qu'ils ont raconté cette histoire. Alors, c'est un peu morbide, vous allez me dire, pour un gosse de 5 ou 6 ans. Néanmoins, elle avait une façon de le dire, parce qu'en même temps, elle était très enjouée, elle me racontait toutes ces histoires de sa petite enfance, des bêtises qu'elle faisait, etc. Donc, c'était absolument passionnant. Et a posteriori, pas à cet âge-là, mais après, j'ai très bien compris. Et ça a été une grande leçon pour moi, par rapport à la vie, ce que représentait cette femme. Parce qu'elle était en plus d'une extrême sérénité avec tout ce qu'elle avait connu. Son mari n'avait pas supporté, il était mort très, très jeune. Et elle était restée voilà, toute seule, dans ce coin perdu. Et en même temps, elle avait une sérénité et une paix qui étaient absolument extraordinaires et qui m'a très profondément marqué. Et souvent, elle me disait, je ne comprenais pas trop à l'époque, elle me disait, mais tu sais, il ne faut pas t'en faire, hein, parce que moi je lui dis, mais c'est dramatique, mamé. Non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce texte de Job. Et après, ça a eu un cheminement dans mon existence, et c'est aussi quelque chose qui a eu quelque chose de très très important pour moi. Et d'ailleurs, ma fille aînée s'appelle Noémie, c'est pas pour rien, c'est. Voilà. C'est très personnel ce que je vous dis là, mais en même temps, ça explique un certain nombre de choses. Et elle m'a appris donc cette paix, cette sérénité, mais aussi cette vie de Cévenol qui a été extrêmement dure et qui, en même temps, a fait que ce n'était pas des révoltés parce qu'ils avaient quelque chose en eux qui leur donnait cette sérénité. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'important. J'ai eu après envie d'en parler. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, toutes ces expériences d'enfant n'étaient pas aussi morbides que celles-là. J'avais aussi le berger du coin avec qui j'allais garder, qui me montrait comment on faisait l'huile de cadre, avec les morceaux de cadre, et puis son espèce de four dans une marmite, etc. Donc, des choses extrêmement intéressantes. Et comme ça, je pourrais multiplier les histoires à l'infini. Ensuite, il y a un pasteur, le pasteur Cadix. Je vous ai dit, mon grand-père est décédé à 12 ans, donc j'étais encore enfant. Et le pasteur Gaston Cadix, qui avait été pasteur à Saint-Jean de 1900 à 1925, puis avait été à Nîmes, et puis à la retraite, juste après la guerre, s'était installé définitivement à Saint-Jean. Et c'était un peu l'historien local, un des fondateurs du Musée du Désert. Il était un passionné d'histoire locale et d'histoire protestante. Et comme il a vu que j'avais aussi de l'intérêt pour ces questions-là, eh bien, le jeudi après-midi, il a remplacé mon grand-père, j'allais le voir, et là, il m'a initié à l'histoire du protestantisme, à l'histoire de Saint-Jean, Et aussi, il m'a amené sur le terrain, voir un jour un menhir, un dolmen, ou ce qui croyait être un menhir, parce que depuis, ce qu'il me montrait comme étant un menhir, là n'était pas œuvre, mais là, dans la salle. Bon, c'est clair. Il m'a amené un autre jour à la grotte de Rouville et me parlait des réunions de Vivenne à la grotte de Rouville, me montrer les traces du mur parce que Baville l'avait fait murer, etc., etc. Donc ça a été aussi quelqu'un qui a eu une grande importance pour moi. Et puis, dernière personnalité, et avec cette personnalité tout un mouvement qui a été fondamental, c'est le scoutisme unioniste. J'ai été louveteau à 6 ans, je suis sorti du scoutisme quand je me suis marié à 21, et entre-temps, il n'y a pas d'interruption. Autour d'une personnalité fabuleuse, il y a Charles Costola qui pourra en parler peut-être mieux que moi, c'est le chef Paul Privat, qui était une personnalité extraordinaire, qui est un monsieur qui a consacré toute sa vie au scoutisme et à l'éducation des jeunes. Il a repris la troupe éclaireur à Saint-Jean-du-Gard en 1921, puis il a été commissaire régional, provincial, y compris, il ne s'est jamais arrêté, il est mort très âgé et il était encore scout. Et il avait aussi mis en place des camps scouts très tôt, à partir de 26, et notamment le fameux camp des Balmes. Beaucoup connaissent, ou voilà, j'ai été aussi à son école. Et ça, c'est une des choses que m'a appris le chef Privat et le scoutisme en général, c'est d'abord le sens de la responsabilité. Chef Privat a des enfants de 12 ou 13 ans, des jeunes éclaireurs, nous confiait des tâches d'adultes, qu'il contrôlait derrière notre dos, c'est évident, mais en nous faisant une totale confiance. Et ça m'a marqué. Un gosse, quelquefois à la maison ou ailleurs, bon, on ne faisait pas une confiance absolue, mais ce monsieur. Et par là, il nous a appris, il nous faisait confiance, et en même temps, il ne fallait pas la tromper. Et donc, il nous a appris le sens de la responsabilité quand on s'engage en quelque part. Et ça, c'est très, très fort. Je me rappelle, le premier camp de travail, j'avais 12 ans, donc je venais d'être éclaireur, que j'ai fait au bal, on construisait l'infirmerie. Alors, c'était lui, le maçon. Puis moi, j'étais derrière lui avec une truelle et je mettais du mortier entre les moellons. Puis au bout de 2 heures ou 3 heures qu'on faisait ça, il m'a dit « Maintenant, c'est toi qui montes le mur. » J'ai expliqué les règles, le cordeau, le fil à plomb. Maintenant, c'est toi qui montes. Alors, quel honneur, me confier de monter le mur. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, mon mur était peut-être un peu tordu. Mais voilà, il m'avait appris... ça, et c'était très très important. Et puis la seconde chose qui m'a marqué dans le scoutisme, c'est le respect et l'amour de la nature, et ça m'a pas lâché. Et voilà, donc ça fait partie de ces grandes influences dans mon enfance. Des décisions personnelles et de la recherche. Alors, à la mort de mon grand-père, donc j'avais 12 ans, et ça a provoqué en moi un double déclic. Vous l'avez compris, nous étions inséparables, c'était quelque chose de très fort. Et ça a provoqué un double déclic. Le premier est dans ma vie spirituelle, ça m'a fait réfléchir par rapport à la foi, par rapport à mon engagement personnel, par rapport à ce rapport à Dieu, avec une conscience forte d'être séparé d'avec Dieu, parce que né pécheur, mais d'avoir gratuitement cette grâce et cette réconciliation par la grâce, par la foi, en l'œuvre expiatoire, en l'œuvre du Christ, de la croix et de la résurrection. Et là, bon, j'ai pris une décision, un engagement, ce que dans notre jargon patois de Canaan, on appelle la conversion. Voilà, c'est une démarche que j'ai vécue à ce moment-là. Et le second déclic concerne le problème de la mémoire, la transmission de la mémoire. J'ai pris conscience à ce moment-là, donc de 12 ans, hein, 12 ans et demi, que j'avais été un privilégié d'avoir été au contact de ce grand-père qui m'avait transmis l'histoire de la famille, et un tas de choses, et la langue, et les proverbes, et tous ces savoirs qu'il avait, qu'il m'avait transmis. Et la plupart de mes petits camarades ne vivaient pas cette espèce de proximité avec le grand-père. Et je me suis dit, mais parce qu'on commençait déjà à ce moment-là, les vieux étaient d'un côté, les jeunes ménages de l'autre, et il n'y avait plus toute la famille sous le même toit, ce que moi j'avais un peu connu. Et je me suis dit, dès ce moment-là, mais ce privilège que j'ai eu, qu'est-ce qui va se passer après, voilà, il y a une transmission qui va... Il va y avoir une interruption dans la transmission, parce que mon grand-père m'a bien expliqué que lui, c'était son grand-père, est-ce que je vous avais dit, etc., qui avait cette chaîne qui nous remontait comme ça très loin, et qui allait être interrompue. Et j'ai pris la décision, une décision d'enfant, un peu bête, un peu sotte, de dire, ben voilà, moi je vais me consacrer à réunir... À réunir les éléments de cette mémoire, des objets, ce qui a fait la société et l'identité de ce pays. Alors, je ne l'ai pas formulé avec ces mots que je formule a posteriori, parce que j'ai eu d'autres démarches depuis, mais c'était dans ce sens-là. Et je me suis mis à faire du collectage. Et pour ça, mon père m'a beaucoup aidé. C'était un artisan ébéniste qui était très... réputé, très connu dans toute la vallée de Borne, la vallée française. Donc je l'accompagnais, il me mettait en contact avec les gens, et puis j'y retournais sur ma bicyclette et je discutais avec les gens. Donc ça se situe à la fin des années 50, début des années 60, qui est une période où le moral dans les Cévennes était au plus bas. C'était l'époque où l'exode rural frappait le plus et où les anciens qui restaient avaient l'impression que les jeunes avaient déserté et qu'après eux, c'était fini. La Cévennes, il n'y en avait plus. Et de voir un enfant, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui s'intéressait à eux, à leur vie, à leur histoire, qui leur posait des questions, et ça, vous le faisiez comment, et ça servait à quoi, etc. Eh bien, j'ai eu un accueil. Ça les valorisait, d'une part, et en plus, vous avez quelqu'un à parler de choses qui les intéressaient, c'est-à-dire de leur vie. Et donc, j'ai pu comme ça récolter énormément de choses et des objets. Vous savez qu'après eux, ces objets, on allait vendre la maison, ça allait partir. Et donc, j'ai accumulé comme ça, très, très rapidement, des collections relativement importantes. Et puis, donc, on passe au quatrième élément, les grandes dates du musée, parce que c'est avec ce premier fonds de collection qu'on a lancé les premières expositions. Alors là encore, je me suis appuyé sur le groupe de jeunes de l'Église libre. J'avais 17-18 ans, j'étais un peu responsable, et on a fait une première expo en 1964 sur l'histoire des Cévennes et leur vie quotidienne. Et puis, moi, j'ai fait passer un bac mathématique à Alès, au lycée JBD, et je me suis retrouvé à Lyon, en prépa, et puis dans une école d'ingénieur, pour faire un diplôme d'ingénieur. Et donc, c'était en 1965, époque où la filature à Saint-Jean-du-Gard a cessé de fonctionner, et où c'est mon père et mes frères, qui, dans le cadre de l'entreprise, avaient racheté les bâtiments de la filature de Maison-Rouge. Et donc, on avait été en contact avec les propriétaires qui étaient des industriels lyonnais. Et moi, étant à Lyon, j'avais les portes ouvertes dans cette famille. Je suis le PDG de cette société qui m'a ouvert les archives de cette compagnie des soies de France qui avait sévi dans les Cévennes, qui était la dernière société à avoir fait de la soie dans les Cévennes. Mais ils avaient des documents qui remontaient beaucoup plus haut. Et je me suis mis à travailler l'histoire de la soie dans les Cévennes de façon un peu plus sérieuse. Bon, je faisais des études d'ingénieur, j'avais aussi une méthodologie un peu différente, et bon, j'avais acquis donc dans ces domaines-là. Et j'ai profité aussi de mon séjour à Lyon pour travailler sur la soie au musée de la soie, des musées des tissus à Lyon. Et à mon retour, en 1969, avec quelques amis qui étaient aussi intéressés par ces questions-là, nous avons créé l'Association des Amis de la Vallée Borgne et mis en place la première exposition permanente. Mon père avait déménagé ses magasins et ses ateliers à Maison Rouge, et donc il y avait tous ces bâtiments qui étaient disponibles, et c'est là que l'on a installé notre première exposition qui était une exposition permanente, mais qui était encore privée. Mais à ce moment-là, j'avais décidé de donner toutes les collections à cette association Loi 1902. C'est l'époque aussi la création du parc national des Cévennes, avec c'était l'époque de la mission d'études, ça, où donc j'ai rencontré l'association Fonds Vive et j'ai découvert des historiens, des gens qui travaillaient sur les Cévennes, avec qui on s'est lié d'une grande amitié. C'est le docteur Pelé de Genouillac, c'est l'abbé Roux de Vialas, c'est Jean-Pierre Chabrol, c'est un certain nombre de personnalités comme ça, et puis les premiers responsables du parc, puisque j'ai milité pour la création du parc à ce moment-là. C'est l'époque aussi d'une rencontre qui a été déterminante, et qui a été celle avec le professeur Philippe Ouchouta. Il était en 69, il terminait sa thèse, il faisait encore quelques enquêtes dans les Cévennes, et comme j'avais monté l'expo, donc on s'est rencontrés là, et on s'est lié aussi d'une indéfectible amitié, et il m'a beaucoup soutenu, parce que, bon, j'étais un amateur, et je n'avais pas fait d'études en sciences humaines, ni en ethno, donc j'étais très très amateur, moi je faisais ça avec mes tripes. Et ça a été le premier à prendre en considération et à prendre très au sérieux notre boulot, à le valoriser, à nous faire rencontrer des universitaires et à valoriser ce travail. Et j'ai rencontré aussi de ces étudiants, notamment Jean-Noël Pelaine, avec qui aussi on s'est lié d'amitié et avec qui on a poursuivi des recherches ensemble et produit un certain nombre de livres, d'ouvrages sur ces événements. Et puis, c'est aussi l'année de mon mariage avec une jeune fille des Églises libres aussi, dont le père était Aimé Vignon, qui était un grand amateur de la langue, du patois, un conteur remarquable, et qui s'est tout de suite intéressé au musée. Et donc, ensemble, nous avons fait des visites commentées en patois, enfin, avec une vie extrêmement intense dans le musée. Et je dois dire que mon épouse, qui était quasiment autant passionnée que moi, m'a beaucoup aidé, a beaucoup supporté, et que je lui dois beaucoup, comme à mes frères d'ailleurs au sein de l'entreprise. Et à ce moment-là, nous avons fait avec mon épouse le choix de vivre à Saint-Jean-de-Gard. J'ai fait une expérience dans l'enseignement des mathématiques à Nîmes, au lycée du Haudat, parce que je voulais quand même rester un peu dans le secteur. Et puis finalement, mes frères m'ont proposé de rester dans l'entreprise. À ce moment-là, il y avait énormément de travail, il y avait la place d'un troisième dirigeant. Et donc, avec mon épouse, on a hésité. Où on partait très loin, et bon, ben voilà, tout ce qui m'avait amené jusque-là, c'était des souvenirs. Où j'abandonnais ma profession et je restais à Saint-Jean. D'un point de vue matériel, évidemment, c'était beaucoup moins avantageux, mais on restait là, il y avait le pays, on pouvait continuer ce travail, et donc c'est le choix que nous avons fait et que nous n'avons jamais regretté d'ailleurs. C'est aussi l'époque où je me suis investi, où Philippe Joutard a pris la présidence du club Cévenol et où je me suis investi avec lui étant à l'extérieur, moi sur le terrain, sur place. J'ai été aussi élu municipal, j'avais au parc, très engagé, beaucoup de relations, et donc j'étais un peu son bras droit sur le terrain. Et là aussi, je me suis lié avec un certain nombre de chercheurs, d'historiens, Adrienne Durand-Tulou en particulier, qui m'a beaucoup apporté, Robert et Jacques Poujol, Jean-Paul Chabrol, et puis, beaucoup plus tardivement, Patrick Cabanet, et donc avec qui nous faisions pour ces équipes, Olivier Poujol aussi, on discutait, on refaisait les Cévennes en permanence. 1982, cinquième point, c'est l'institutionnalisation du musée dans des locaux municipaux. Grâce au directeur du parc des Cévennes, qui était devenu un ami, regretté Émile Lénaud, qui a expliqué au maire de Saint-Jean-du-Gard, qui était un ami d'enfance d'ailleurs, que bon, c'était important, qu'il fallait structurer ce musée et faire que bon, il soit stabilisé. Et le maire a accepté, et donc il a acheté des locaux pour ce faire, et on a installé le musée avec une convention entre l'association et la commune, et donc ça a été la première institutionnalisation un peu de ce lieu. Et nous avons organisé pour son inauguration en 1982 avec Philippe Joutard un colloque sur les petits musées de société. C'est une époque où on parlait beaucoup d'ethnologie, de mémoire, de recherche et préservation, collectage, voilà, ce travail que j'avais fait. Et on a organisé ce colloque qui n'était pas très très bien vu du ministère de la Culture d'ailleurs. Et on a réuni 120 ou 130 petits musées comme le nôtre de France et de Navarre, un peu d'Italie aussi d'ailleurs, Val d'Ost et puis des vallées du Piémont, des vallées vaudoises. Et ça a été un déclic relativement important, parce que ça a été un très très gros succès. On a fait des actes de ce colloque qui ont joué un rôle relativement important. Les gens de la direction des musées de France, qui au départ n'étaient pas intéressés, parce qu'on était tous des amateurs, on n'était pas dans le moule de la DMF, sont venus parce qu'on venait de créer la mission du patrimoine ethnologique et que les gens du ministère de la mission du patrimoine étaient intéressés et sont venus. Donc, la mission venant, les inspecteurs de la DMF ne pouvaient pas ne pas venir et ils sont venus. Et on a eu des discussions extrêmement importantes qui m'ont permis d'exprimer et de clarifier un certain nombre d'idées par rapport à ce qu'était pour moi ce musée. Ce musée, donc, qui sont des objets qui sont rassemblés là, j'ai pris confiance de ce que je ressentais au travers d'eux, c'est qu'ils étaient des témoins, des habitants, des hommes qui les avaient utilisés, construits ou utilisés. Et qu'ils parlaient un peu pour des hommes qui avaient une culture extraordinaire, mais qui n'était pas une culture urbaine, qui était une culture rurale, dénigrée, et qui donc avait fait un peu un complexe d'infériorité par rapport à la ville, et qui ne s'exprimait pas. Et j'ai dit, mais au travers de ces objets, qui sont les témoins, eh bien, ce musée doit servir à leur donner la parole, d'une part. D'autre part, c'était aussi un hommage fort avec tout ce que j'avais connu, vécu de très profond dans ces relations avec les hommes que j'ai évoqués, les hommes et les femmes que j'ai évoqués. C'était aussi une envie de rendre hommage à ces anciens qui avaient, comme je disais, construit et entretenu ce pays et nous l'avaient légué. Nous étions des héritiers et nous devions être des passeurs, transmettre. On avait un rôle de passeur, on devait transmettre ce que l'on avait reçu. Donc aux générations futures. Et donc il y avait une vision très précise pour les jeunes de façon à ce qu'ils puissent prendre conscience profondément quelles étaient leurs racines. Et puis des nouveaux venus, parce que c'est aussi une époque, ça, où il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer dans les Cévennes et il n'était pas inintéressant de leur donner quelques éléments pour comprendre quelle était cette société, cette identité cévenole. Et puis enfin aussi, il y avait un développement du tourisme, de visiteurs importants. Et pour nous, qui souvent venaient dans les Cévennes, comme le disait Joutard, parce qu'il y avait de l'air pur, parce que c'était agréable, on se reposait, il y avait de l'eau, on se baignait, manger une truite, on ramassait quatre framboises. C'est-à-dire pour des choses qui sont bien réelles, certes, mais rapidement, ces gens prennent conscience qu'au-delà de ces choses extrêmement intéressantes, l'intérêt premier des Cévennes réside ailleurs et réside dans ces hommes, dans leur culture, dans leur histoire. Et donc, il faut donner à ces visiteurs des clés pour qu'ils puissent, après, dans le pays, sur le terrain, le comprendre. Et le colloque a été pour moi aussi l'occasion d'exprimer un certain nombre d'idées, je le disais, par rapport au sens que je donnais à ces objets, et notamment ce sens de témoin. Pour moi, une bassine de fileuse, aussi belle soit-elle, n'est pas qu'une œuvre d'art, même si elle est bien décorée. C'est avant tout un bassin où une femme, 12 heures par jour, trempait les mains dans l'eau bouillante. Et voilà. Et ces objets, donc, sont cette réalité-là. Et en termes de muséographie, pour comprendre le témoignage, pour écouter, entendre ces objets, ben, il ne faut pas les voir comme on voit des œuvres d'art dans un musée. Et le problème un peu de la France, contrairement à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est que les musées de société étaient, sont toujours un peu, bien que les choses aient évolué, étaient un peu traités comme des musées des beaux-arts. C'est-à-dire seul le regard, le visu, était utilisé pour appréhender l'objet. Or, vous avez un bigot, une houe à deux dents, qui est l'outil de base des Cévenols. Si vous ne le prenez pas en main, si vous ne le soupesez pas en disant, ben voilà, un paysan, 14 heures par jour, ça. Si vous ne caressez pas le manche patiné, usé de la sueur et du crachat, puisqu'on se crache dans les mains pour que ça ne glisse pas, etc., si on n'a pas ce contact avec l'objet, on passe à côté vraiment de beaucoup de choses dont l'objet ce que l'objet a à dire. Et donc ça, évidemment, on était un peu en opposition avec les gens de la DMF à ce moment-là. De la même façon, souvent on voyait dans la muséographie, on prend un objet, ces objets populaires, il est isolé, il va être bien éclairé, mis en scène, et seules ses qualités esthétiques, qui quelquefois sont extrêmement réelles, il est esthétique, mais sont les seules que le visiteur remarque. Et ça, pour moi, c'est dénaturer l'objet. L'objet, je le répète, c'est avant tout le témoin de la société qui l'a utilisé. Et donc, on a eu comme ça, un peu dans ce colloque, des mots avec les inspecteurs de la mission, de l'inspecteur des musées. Et nous n'étions pas musée contrôlé, nous étions un musée totalement libre. Et, voilà. Et puis, j'ai pris conscience que quand même, il y avait des limites à mon raisonnement, que ces objets aussi étaient fragiles, et que les laisser à la portée des gens, ils pouvaient être cassés, ils pouvaient être volés, et que donc, il fallait aussi, on avait une mission de conservation, et bien les conserver. Et petit à petit, j'ai fait un cheminement qui m'a amené à ne pas renier ce à quoi je croyais, mais à penser qu'il fallait aussi assurer cette protection. Et petit à petit, il y a une évolution aussi qui s'est faite avec un certain nombre de ces inspecteurs que j'ai appris à connaître, à discuter. Et en 1999, finalement, nos collections ont été reconnues par la direction des musées de France et le musée est devenu musée contrôlé. Aujourd'hui, on dit musée de France, donc sous le contrôle et avec les quelques avantages financiers provenant de l'État. Dernier point, j'ai été long, excusez-moi, mais ça sera très court. 2002, mes frères, qui étaient plus âgés, je vous l'ai dit, arrivent à la retraite. Nous avions dans la famille aucun enfant qui avait envie de prendre la succession dans une entreprise qui marchait bien. Et mes frères, ils sont restés un ou deux ans de plus, puis ils ont dit, écoute, maintenant, quand même, on aimerait bien partir. Alors j'avais deux solutions, ou je restais seul dans l'entreprise. Mais ça voulait dire que j'abandonnais mes engagements au parc national, que j'abandonnais le musée, que j'abandonnais tout ce qui avait fait un peu ma vie et mes engagements dans ce pays, où on s'arrêtait tous ensemble et je passais à autre chose. Et les choses se sont relativement bien enclenchées. Saint-Jean-du-Gard est entré dans la communauté du Grand Alès. On avait pensé un peu à un projet, puisque le musée ne pouvait plus rester là où il était, c'était absolument impossible, par manque de place, puis aussi par manque de qualité de conservation. Et une idée comme ça, avec le maire à ce moment-là, M. Aforti, qui est issu de la filature, hein, ses parents, grands-parents, oncles, tantes ont travaillé dans cette filature, ont été directeurs, etc. Donc il était lui-même, il y a travaillé. Certificat d'études, il a eu son CERTOF, il est rentré dans l'entreprise dont son oncle était directeur, son père mécanicien, sa mère fileuse, etc. Il y a fait quelques mois, mais elle a rentré On l'a inscrit au cours complémentaire pour un cinquième pour faire son PPC. Et donc, voilà, après, il a fait notaire. C'est, bon, c'est comme ça. Mais donc, il était attaché à cette filature. Il a dit, mais on pourrait transférer le musée à Maison Rouge. Entre-temps, elle était devenue inscrite, protégée par les monuments historiques, inscrite sur la liste supplémentaire. Et c'est-à-dire, voilà, la possibilité. Et le Grand Alès a été d'accord d'imaginer qu'il puisse être le maître d'ouvrage de ce transfert. Et on a cessé l'activité de l'entreprise, ce qui est un peu dommage et que je regrette par certains côtés, parce que c'était aussi un grand plaisir, parce que ça me permettait d'avoir toujours ce contact avec les gens, avec ces Cévenols que j'ai beaucoup moins aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, on n'avait pas de succession, nos employés n'ont pas voulu, malgré le fait qu'on leur donne les stocks, les machines, etc., n'ont pas voulu reprendre. Et donc, on a cessé l'activité. Et je suis rentré comme chargé du projet pour mettre en place le transfert du musée des Vallées-Cévenoles dans cette filature toute symbolique de Maison Rouge, puisqu'elle a été le premier site qui a reçu le procédé qui a permis l'industrialisation de la filature de soie dans les Cévennes en 1809, et qu'elle a été la dernière filature de soie française a fermé ses portes en 1965. Et donc, on a lancé ce projet, et depuis, je suis, tout en étant directeur du musée actuel, chargé de mission pour ce transfert. Bon, il n'a pas été, ça fait 8 ans, c'est très long, parce qu'on a eu des soucis administratifs, de financement. Ceci étant, on a fait les premiers travaux de sauvegarde en 2009. Aujourd'hui, on est dans la phase du concours. On a retenu 4 architectes qui vont nous proposer leur projet. On va choisir le projet. On a l'assurance des financements de l'État, des 30% de l'État depuis le mois de septembre, puisque ce musée fait partie du plan des 79 musées sur lesquels l'État intervient dans un programme de 3 ans. Et on n'a pas l'assurance encore de tous les financements départementaux et régionaux, mais on veut y croire encore un peu. Donc on y travaille. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais...
Merci beaucoup. Et alors, merci beaucoup pour cet exercice que vous avez parfaitement maîtrisé, que vous avez même rendu passionnant, chaleureux, j'ai envie de dire. Vous avez transmis déjà ce goût, cet amour des objets et des Cévennes, de ce pays et puis de ces hommes. Alors voilà, je vous laisse la parole, cher public. Je pense que vous avez certainement des questions, des remarques, des interventions à faire. À vous la parole.
Parlez fort, je suis vieux, plutôt doré.
Oui.
Est-ce qu'il y a de plus regarder par vidéo déjà?
Non, alors, bon, ça demandait des moyens qu'à l'époque je n'avais pas. Et puis, je dois avouer qu'il y a une chose que je n'ai pas fait, mais volontairement. Je n'ai pas tout fait bien dans mon existence. D'abord, je n'étais pas photographe, donc j'ai peu photographié. Et puis, il a été publié tellement de livres qui ne présentaient que des personnes âgées, qui étaient un peu voyeuristes, que j'avais une autre relation, une autre intimité avec les gens. J'ai pas eu envie de faire ça. Et puis j'avais 12 ou 13 ans, j'ai commencé dans les gens de la Haute-Vallée Borgne, on m'avait offert un magnétophone. Et je m'étais dit, je vais enregistrer ce discours que les gens ont à me dire. Et je suis allé voir une voisine, la première que j'ai enregistrée, malheureusement, ça a été comme ça, et que je connaissais bien, j'avais été chez elle, logé pendant les vacances de Pâques, et bon, on avait une relation très étroite, et je lui ai dit, Marie, tu permets que je t'enregistre? Elle n'a pas compris ce que je lui disais, hein, elle m'a dit oui, bien sûr. Et puis, j'enregistre, j'interroge, elle me parle, et puis au bout d'un moment, elle me dit, mais de quel acoustique est bire, qui? Est-ce que c'est cet outil qui tourne? Là, j'ai compris que... Elle n'avait pas compris ce que je voulais dire en posant la question que je t'enregistre. Et alors, j'ai fait le geste que je n'aurais jamais dû faire. J'ai rembobiné et je lui ai fait écouter. Et ça, elle a changé de couleur. Je lui avais volé quelque chose. de se réentendre dans un appareil, ça l'a profondément blessé. Bon, elle ne me l'a pas remonté parce qu'elle m'aimait bien, mais vraiment, je l'ai blessé. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, plus jamais je n'enregistrerai. Donc, je prenais des notes, je écrivais, mais ce qui, pour certaines choses, pour les contes, pour les chansons, évidemment, c'est déplorable. Alors, c'est pour ça, vous comprenez pourquoi je me suis lié très étroitement avec Jean-Noël Pelin, qui, lui, s'est spécialisé sur le monde dit, le conte, la chanson, etc. Il a enregistré, lui, ces éléments-là d'ethnologie, et moi, sur la vie matérielle, sur les modes de vie, la façon de pratiquer ceci ou cela. Voilà. Et donc, j'ai encore moins utilisé la vidéo, puisqu'à ce moment-là, ça n'existait pas. Et j'ai oublié un personnage qui a été important dans ma vie, parce qu'on en oublie toujours beaucoup, c'est André Nicolas, qu'il avait connu aussi avec Jean Pelé, l'abbé Roux, c'était la même équipe, qui était photographe. Et donc Jean-Noël Pelin s'occupait du monde dit, André Nicolas faisait les photos, on a parcouru des milliers de kilomètres dans toutes les Cévennes pour photographier le patrimoine, et on a pas 30 ou 35 000 clichés de choses qu'on a photographiées, de gens aussi quelquefois lorsque ça s'y prêtait bien, mais j'avais toujours un peu de pudeur à ce genre d'exercice. Voilà.
Merci. D'autres questions, remarques ? Dans vos échanges avec les gens des Cévennes, que ce soit depuis votre jeunesse ou après, qu'est-ce qui vous semble avoir le plus marqué, 2-3 dates, ces Cévenols, quelle date représente pour eux un traumatisme? Est-ce que c'est la guerre de 14-18? Est-ce que c'est la fin de la filature? Est-ce que ce sont des dates plus historiques encore, liées au protestantisme?
Alors, il y a effectivement plusieurs choses. La première des choses, en termes de traumatisme, c'est la guerre de 14-18. Les générations, pour moi, j'ai les anciens que j'ai enregistrés à la fin des années 50, début des années 60, c'est sûr qu'ils avaient tous fait la guerre des 14, où on avait subi des conséquences très très fortes. Dans chaque famille, il y avait des décès dans les chambres, il y avait des photos affichées, des de conscrits, enfin bon, il y avait toute cette souvenir, une mémoire de ces gens, de ces pères, de ces fils qui avaient disparu. Comme je vous l'ai dit avec l'histoire de Noémie, c'est quelque chose qui était extrêmement prégnant et récurrent, ça c'est très très fort. Comme traumatisme, c'est ça. J'ai pu constater que la filature aussi, dans les villages, avait un sens, et beaucoup de choses liées à la filature, mais... Et quelquefois, un peu plus tardivement peut-être, dans les années 70 ou 80, où on m'expliquait que c'était dur, que c'était difficile, mais qu'on aimait y aller, qu'on y allait à 12 ans, et qu'on aimait y aller. Et inlassablement, on me disait, à ce moment-là, au moins, il n'y avait pas de chômage. Tout de suite, voilà, on ne gagnait pas beaucoup, mais c'était une petite dot qui nous permettait de nous marier en faisant un trousseau. Enfin, bon, pas le temps de rentrer dans le détail par rapport à la filature et par rapport à ce prolétariat, mais il y avait un sentiment d'avoir été dans un âge d'or. Alors c'est peut-être aussi le fait que quand on est âgé, on oublie au maximum les choses désagréables et qu'on garde une mémoire des choses les plus sympathiques, qui fait paraître que la vie d'autrefois est plus sympathique, peut-être, mais aussi ces grands-mères qui avaient des enfants, des petits-enfants au chômage, qui sortant de l'école, ne trouvaient pas de travail, etc. Et leur remarque liée à la filature, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, dire, mais attendez, c'était l'enfer, dire non, par rapport à aujourd'hui, mais finalement, c'était pas inintéressant. Et troisième élément très fort, c'est effectivement cette histoire du protestantisme. Alors, quelquefois, un peu flou sur la mémoire précise des événements, encore que très souvent, il y avait une Choutard l'a très bien montré dans la légende des Camisards, une mémoire précise de tradition orale, familiale, qui venait conforter, enfin pas conforter, mais qui avait des éléments historiques, des faits avérés, et que la tradition orale rapportait sous une autre forme, mais on voyait que c'était quelque chose de sérieux, que ce n'était pas n'importe quoi. Et un sentiment, alors, de fierté, d'appartenance à cet héritage, fierté des ancêtres, alors qui, d'un point de vue spirituel, n'est pas nécessairement la meilleure chose, mais fierté notamment d'avoir eu ces ancêtres qui avaient su résister. Ces gens étaient convaincus que c'est ceux, et les historiens nous l'avons montré, que c'est ceux qui avaient forgé l'identité, le premier vecteur identitaire de ce pays, que c'était celui-là. L'appartenance à cette histoire particulière. Là, bon, je ne vais pas recommencer une conférence là, mais c'est vrai que on voit, c'est très très intéressant de voir comment cette histoire des camisards en particulier, qui a été très critiquée, ce phénomène camisard très critiqué par le protestantisme officiel, alors que la mémoire locale en conservait une certaine fierté. Puis la découverte des historiens républicains qui, comme Michelet, trouvent qu'il n'y a rien de semblable à l'histoire des Cévennes dans toute l'histoire de l'humanité. Et là, nos paysans cévenols qui ont eu toujours la conviction que les camisards, ce sont des valeurs, c'est quelque chose de très fort, l'historien les confirme alors que quelque chose de très fort, et se passe à ce moment-là un mouvement de commémoration qui a un succès fou. 1885, commémoration, enfin, un bicentenaire de la révocation de l'édit de Nantes, 2 000 à 3 000 protestants qui se réunissent à Saint-Romain-de-Touzque avec la Cévenole, etc. Alors qu'au départ, c'était prévu comme une réunion d'évangélisation. Enfin, c'est une autre histoire, je pourrais en parler longtemps. Mais c'est 2 000, 3 000 personnes. Ça, organisé par le milieu orthodoxe. 2 ans après, pour ne pas rester en reste, les libéraux font la manifestation au plan de Fondmort par rapport au centenaire de l'édit de tolérance. Et là, c'est 5 à 6 000 protestants qui se retrouvent là. Et puis, chaque année, pour la fête de la Réformation, il y a un très beau mouvement unitaire qui se penche sur l'histoire dans toutes les paroisses. C'est unitaire parce que les églises dissidentes s'y retrouvent. Et au moins, à ce jour-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un engouement pour les assemblées au désert, exactement comme celle des pères, etc., avec, termine par la création du musée du désert, lieu de mémoire qui va fixer cette mémoire en 1911, effectivement, qui va forger cette histoire. Et on ne fait pas référence à autre chose qu'à ça. On inaugure le pont des Abarines, on est en 1900, on est très loin des camisards. Tous les discours, sans exception des politiques qui ont été là, ont fait référence à l'environnement, la vallée des camisards, on est sur la terre des camisards, la résistance de nos pères, etc. Si bien que le ministre a un discours très, très pathétique sur cette résistance et sur le sang de Cévenol qui a coulé pour la République, parce qu'on mélange cette liberté avec la République. Enfin, c'est assez fascinant comme truc. Donc ça, c'est l'autre élément important, c'est que cette histoire-là à l'origine, était le premier vecteur, il y en a d'autres, hein, mais c'est le premier vecteur de l'identité de ce pays, enfin, traditionnel, hein, sa version, sa forme traditionnelle, c'est cette histoire-là avec une conscience identitaire extrêmement forte. Alors qu'antérieurement, dans cette histoire-là, les Cévennes, en tant qu'entité administrative, etc., n'existent pas. C'est une entité géographique qui est intégrée à une chaîne qui part du seuil de Norouze et qui monte jusqu'à la Côte d'Or. Bon, on est dans les Cévennes à proprement parler, mais voilà, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance qui va apparaître à la deuxième moitié du XIXe siècle et que des gens vont très bien comprendre. Stevenson, quand il écrit « Là, je suis dans les Cévennes des Cévennes », j'étais bien dans les Cévennes depuis le puits, parce que c'est la définition des géographes de l'époque, mais là, je rentre dans cette terre où seul est considéré comme les Cévennes par les gens du coin, et que lui va appeler Cévennes proprement dit, ou Cévennes des Cévennes. Donc, il a très très bien compris, à l'écoute des gens qu'il a entendus au pont de Montvert et après, à quelle confession qu'ils appartiennent, que ce soit le pasteur libéral de Florac, ou le frère Morave, juste sous le pont de Montvert, c'est le même sentiment d'identité très forte par rapport à ce
Moi aussi, je l'ai ressenti dans ces recherches, ça, c'est clair. Très, très clair.
D'autres remarques ou questions ?
Est-ce que vous pourriez nous présenter deux ou trois objets, les objets que vous préférez de votre musée ou de votre collection ?
Ah !
Oui, c'est tout à fait possible, deux ou trois objets que je préfère. Moi, j'aime bien les bassines de fileuse, vous l'avez compris, je l'ai dit. Il y a un autre objet que j'aime beaucoup.
Vous pouvez expliquer un peu plus les bassines de fileuse ?
Comment ?
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en
quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est qu'une bassine de fileuse ? Ouais.
Là, il y a des néophytes. Bah,
dans les Cévennes... Depuis le XIVe siècle, on élève des vers à soie et on en tire la soie. Enfin, ils font des cocons et de ces cocons, on tire le fil de soie. Donc ça, c'est la filature que ça se passe, industrielle depuis le XIXe siècle. Mais avant, c'était des gens qui éduquaient leurs vers à soie et qui faisaient leur soie qu'ils allaient vendre dans les foires. Et pour un cocon est constitué d'un fil continu de soie de 1 km 200 à 1 km et demi. Et le vers bave un fil continu et s'enferme à l'intérieur du peloton qu'il fait. Or, ce matériau, cette fil de soie, est formé de deux matériaux, lame, qui est la soie proprement dite, et puis une gaine, qu'on appelle le grès, et qui a la propriété de se durcir au contact de l'air. Et donc, lorsque le ver le produit, chaque nappe de fil se colle, grâce à ce grès durcissant, sur la nappe de dessous, si bien quand vous avez un cocon, vous n'avez pas l'impression que c'est un fil, vous avez l'impression que c'est une carapace, que c'est une... Et ce grès a la propriété de se ramollir dans de l'eau à 90 degrés à peu près. Donc, l'art de la filature, c'est de placer ces cocons dans de l'eau à cette température, de les battre pour en trouver l'origine, et puis une fois qu'on a trouvé l'origine du fil, ben, ça se déroule tout seul. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Il faut surveiller l'opération. Et donc, bassines de fileuse, ce sont ces bassins dans lesquels il y a de l'eau. 90 degrés, elle n'est pas tout à fait bouillante, mais elle est chaude. Dans lesquels elle trempe ses doigts pour battre ses cocons, trouver l'origine, tirer le fil. Et donc, voilà. Alors, ce sont des bassines en cuivre, parce que tout autre métal... notamment le fer ferait rouiller, enfin, rouillerait et tacherait la soie. Donc c'est ou de la porcelaine, ou de la terre cuite, ou du cuivre. L'intérêt du cuivre, c'est que un bon conducteur de chaleur et qui conserve bien cette chaleur qui lui est donnée par le foyer qui était en dessous. Et donc beaucoup sont effectivement en cuivre. Et à l'époque où dans les familles on dévidait les cocons, c'était des bassines qui faisaient 70 cm de diamètre, peu hautes, hein, 15 cm de haut, donc c'était des beaux bassins en cuivre, et qui, on s'en servait 3 semaines, hein, 15 jours, 3 semaines, quand on avait fait l'éducation, on récoltait les cocons, et on faisait sa soie. Après ça, ça ne servait plus de toute l'année. Et donc, c'était pendu dans la cuisine, avec les chaudrons, avec tout ce qui était un peu décoratif, et qui donnait un peu le niveau social de la famille. Et donc, certains... un peu plus aisé, qui le montrait, faisait fabriquer des bassines qui étaient avec des dessins ciselés, martelés, qui sont effectivement extrêmement belles. Et bon, c'est vrai qu'elle reflète aussi la qualité des artisans qui étaient capables de faire ça. Mais je disais, pour moi, c'est avant tout ce lieu où des femmes trempent leurs mains en eau bouillante 12 heures par jour. Autre objet, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il, pour moi, quand je l'ai découvert, c'était quelque chose de très très fort. Deux mots, je vous raconte cette histoire. C'est une pise à huile, c'est-à-dire c'est une cuve en pierre taillée dans de la frédéronite qui vient de Valrhog et qui est recouverte d'une autre pierre qui est creusée aussi avec une petite porte, ce qui fait que c'est un bassin qui est couvert mais que l'on ouvre par la façade, ce qui fait qu'il ne tombe jamais de poussière et jamais de saleté à l'intérieur. Et une fois à Valrhog, je visitais avec une tante à mon épouse, des cousins à elle, et sur un mur je vois la partie basse de cette cuve. Ça m'intrigue, hein. Évidemment je pose tout de suite la question, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une pise à huile. Oui, mais elle est cassée, elle a gelé. Alors, voilà, on s'en était servi dans le... Non, c'était le couvercle qui était sur le mur. Il y avait une partie basse, et on s'en est servi pour faire boire les poules à la poulailler, puis elle a gelé. Alors on s'est servi du bas pour tenir des tôles, et puis ça s'est enterré là-bas au coin du poulailler, je crois. Je sais plus, j'aimerais bien le voir, quelqu'un pourrait le voir. Pour la photographie, hein, alors on me le fait voir, je photographie les trois pièces, c'est pas même, hein, puis j'y suis retourné. C'est quand même intéressant, est-ce que je pourrais le photographier en mettant toutes les pièces les unes sur les autres, hein. Oh, mais oui, il y a une troisième fois, et puis là, le gars il me dit, tu la veux? Voilà, et j'étais extrêmement heureux. Et un peu comme ça, un autre objet aussi qui est très, très intéressant, quand on étudie l'histoire du protestantisme, on se rend compte, hein, quelle est l'importance du travail de la laine. Les Cévenols sont plus réactifs, je l'ai dit pour mon grand-père, mais c'est vrai déjà au XVIe siècle. Ils sont paysans et gens de métier. Ils travaillent la laine. Alors soit ils sont cardeurs, peigneurs, tisseurs de laine, ce qui est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle la réforme a été acceptée si rapidement par la classe paysanne dans ce pays. Ça, c'est un fait relativement unique. Bon, partout en France, la réforme a pénétré à peu près à la même époque. Mais la singularité cévenole est que toutes les classes sociables, les notables, les gens de métier et les paysans ont adhéré, comme le dit Théodore de Bèze dans son Histoire ecclésiastique, en un même instant. Alors que généralement ailleurs, par exemple dans le Tarn comparable, on a les notables, on a les gens de métier, les gens de la laine, et puis, une génération après, à peu près les paysans. Or, ici, les paysans sont des gens de métier, et si les gens de métier se sont convertis tôt à la réforme, c'est parce qu'on sait très bien que les idées nouvelles suivent les voies du commerce, et que ces gens de métier, ces gens de la laine, était en contact avec les foires où ils vendaient la marchandise, là où il y avait les colporteurs, etc. Et donc, il y avait une facilité de communication. Et comme ces paysans cévenols sont des gens de métier, mais, ils ont aussi cette faculté, si bien que Chanson a pu écrire « La laine suinte l'hérésie ». Ça, c'est une des explications. Il y en a une autre, qui, de mon point de vue, une autre hypothèse, et les deux se complètent peut-être, c'est que les Cévennes sont un pays qui est extrêmement austère, naturellement rude. L'homme, pour vivre, doit se battre d'une façon acharnée et à titre individuel contre les éléments naturels. Il n'y a pas de vie collective extrêmement forte dans les Cévennes, comme on a dans la Provence voisine, dans le Languedoc. Dans ces grands masses Languedoc, vous avez 50 personnes qui vivent ensemble, en communauté. Ce n'est pas du tout le cas dans les Cévennes, hein. C'est quelque chose de très individuel et un travail forcené. Et donc, lorsqu'on va leur présenter une foi qui leur permet d'avoir une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire, sans hiérarchie, avec ce contact, Dieu leur parlant par sa parole et eux s'adressant directement à Dieu, on peut imaginer que c'est aussi quelque chose qui a constitué un engouement parce que c'est un pays qui était préparé à entendre ce type de message. Bon, moi, personnellement, je pense aussi ça. Alors pour en revenir à mon objet qui touche à la laine, les peigneurs de laine qui ont travaillé encore jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et puis dans les basses Cévennes du moins, ça s'est pas mal estompé, la soie a remplacé et est devenue l'activité principale en termes d'artisanat, et donc la laine a été un peu mise sous le boisseau. Il y a un objet, un fourneau en terre cuite, où on chauffait les peignes de laine, qui est extrêmement rare. Moi, j'en connaissais l'existence par l'encyclopédie de Diderot. Il y avait une gravure, mais je n'avais jamais rencontré ça. J'en parlais. Alors, les peignes en fer subsistent, on en trouvait tant qu'on voulait. Les supports de ces peignes qui sont en fer forgé dans l'état de ferraille, on en trouvait, j'en avais déjà pas mal. Ce fourneau, jamais. Et je rentre en relation avec un berger de Soudorgue, ce qui est un client. Qui m'achète des meubles, on fait en ébénisterie des meubles traditionnels parce qu'il prend sa retraite, et on noue une relation. Et moi, mon travail, c'était deux choses. J'ai rencontré des gens et un berger, donc je commençais à lui parler de ses moutons, de ses troupeaux. Voilà. Puis il a eu besoin d'un service, je lui ai rendu, je lui ai fait un déménagement, je suis allé manger chez lui, etc., etc. Puis il m'a dit, mais tu sais, toi tu as un musée, mais moi aussi j'ai mon musée. Ah, Mais personne, j'ai jamais fait. Très peu de gens y ont eu accès. Je vais te le faire voir. Et en fait, il avait une pièce où il avait rassemblé tous ses objets liés à sa profession de berger, tous ses colliers de moutons, toutes les sonnailles, tous les pompons, tous les marques, enfin, tout ce qui touchait son métier. Et notamment, c'est un grand amateur de colliers, avec énormément de colliers gravés, travaillés, sculptés, qui étaient très très beaux. Et pour aller dans cette pièce, on passe dans un grenier, et sur un coffre, je vois un de ces fourneaux à peine. Je lui dis, mais vous savez ce que c'est ça? Il me dit non. Et ma grand-mère, c'est un type qui avait 80-90 ans dans les années 80, ça. Hein. Donc, ma grand-mère ne savait pas ce que c'était. C'était là, à la maison, elle ne savait pas ce que c'était. Et je lui dis, je vais vous dire ce que c'est. Alors, voilà, il a dû comprendre que je bavais d'envie. Je vais vous expliquer. Alors, je lui explique ce que c'est. C'est des peignes, peignoirs. On chauffait les peignes, on mettait du charbon de bois dedans, etc. Bon, regarde, ça te ferait plaisir. Hein. Et naturellement, ben, il m'a dit, ça sera mieux au musée que chez moi. Et voilà. Donc, ça fait partie des objets qui sont peut-être plus importants qu'un autre, mais pour lesquels il y a une relation. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important dans notre musée, c'est que la plupart de ces objets, ils ne viennent pas de chez les brocanteurs, ils ne sont pas anonymes. Il y a une relation entre leurs détenteurs, ils ont une histoire, une petite dernière, parce que vous allez voir que c'est... Un jour, il y a une dame d'Alès qui amène un sabot, un très beau sabot, un travail de compagnon, et qui avait servi d'enseigne, qui était daté de 1887, qui est un très bel objet, et nous, on s'intéresse au sabotier, donc merci madame, c'est très très bien, et puis bon, ça s'arrête là. Et je n'ai pas fait un travail très, très, très sérieux de recherche, je me suis dit, peut-être un sabotier d'Alès, mais je n'ai pas travaillé à ce moment-là. Puis, 5 ou 6 ans après, passe une dame qui était à peu près de mon âge, s'arrête, je veux voir le conservateur. Je n'étais pas là. Je veux voir le responsable. Alors, j'arrive. Où vous avez vu ça? Sur un ton. Je lui dis, c'est madame une telle qui me l'a donné. Elle m'a dit ça. C'est ma grand-tante. Enfin, vous l'a donné. Elle a bien fait de vous donner. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ce sabot? Non, pas du tout. Et voilà. Mon arrière-grand-père était orphelin. Il devait aller travailler à la mine. Et puis, à 12 ans, il passait tous les jours devant un sabotier. Et ce sabotier a dit à la mère de mon grand-père, mais ce petit, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de laitier, si vous voulez, je lui apprendrai le métier de sabotier. Il y a toute une relation qui se crée. Ce gosse va travailler avec ce sabotier, qui s'appelait M. Bergogne, et puis ce monsieur est devenu sabotier. Il a pris la succession de celui qui lui avait appris le métier. Et c'était un sabotier très très important d'Alès. Et on a des cartes postales d'Alès. On voit le sabot en enseigne sur la boutique. Et donc, elle me raconte toute cette histoire très, très intéressante. Et puis, elle me dit, mais en plus, il y avait une tradition de famille, c'est que lorsqu'un enfant naissait, on décrochait le sabot et on photographiait l'enfant assis, voilà, quelques mois, assis dans le sabot. Et moi, j'ai cette photo de moi, ma sœur, pareil, ma maman, etc. Et elle part, elle était à Strasbourg, c'était un médecin qui était à Strasbourg, et elle réfléchit, un texte pour me raconter toute cette histoire-là, et elle m'a envoyé, qui est exposé au musée à côté du sabot, sa photo, bébé, dans le sabot, avec toute cette histoire. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est important aussi dans ces objets. Quand je dis qu'ils sont des témoins, c'est qu'ils sont tous porteurs d'une histoire et de quelque chose. Et nous nous sommes efforcés, scientifiquement, à ne collecter que des objets dont on sait d'où ils viennent, qui ont une origine bien connue. Ce n'est pas un ramassis d'objets, aussi intéressants soient-ils, c'est ça. Les objets qui ont une vie qu'on situe. Et, alors, bon, pas pour les 30 000 objets qui sont au musée, mais il y a comme ça des objets un peu emblématiques et très très forts pour lesquels on a ces enquêtes autour de ces objets qui nous apportent ces histoires de vie.
Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque ?
J'en donne plus. Une anecdote, en 2002, en 2003, j'avais rédigé le projet scientifique et culturel. Et donc, j'étais en relation avec la DMF. Je montais assez souvent à Paris pour faire valider, pour discuter. Et quand on avait fait le programme, le programmiste avait estimé le temps qu'il fallait pour réaliser les choses. Bon, donc, on était en 2003, 2004, 3 ans, 2007. C'est fait, c'est rigolo. Ministère, ils m'ont dit, voilà, attends. Un musée, il faut 12 ou 15 ans pour faire un musée. Bon. Et finalement, ils n'avaient pas tout à fait tort. Donc, je n'ai plus de pronostic. Sauf que, au stade où on en est, si effectivement le programme n'est plus ralenti, momentanément stoppé, s'il se déroule normalement, effectivement, on peut envisager entre 36 et 40 mois de travail pour le réaliser et le mettre en place, quoi. À peu près.
Compris avec le déménagement, les travaux.
Compris le déménagement, oui. Ça, c'est ce qu'a estimé le programmiste. Moi, ça me paraît un peu short, parce que le déménagement, c'est quelque chose qui sera compliqué, mais bon, voilà.
En parlant de la date
d'aujourd'hui. Oui, parce qu'on a les plannings, vous savez, il y a 36 mois, 40 mois, voilà, donc, à partir du stade où on en est aujourd'hui.
Oui.
Alors, j'ai l'âge de la retraite depuis déjà un peu de temps. Ça me fait très... Mais c'est aussi un grand privilège, je crois que ça sera ma conclusion. J'ai eu la chance, moi, c'était même une bénédiction, je dirais, d'avoir pu, ce pourquoi je me suis consacré en dehors de mon travail toute ma vie, en fin de ma carrière, d'être payé pour ce faire. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, effectivement, n'en a pas du tout. Je fais 10 ou 12 heures par jour, mais je n'ai pas du tout l'impression de travailler parce que c'est, voilà, c'est ma passion et ma vie.
L'intervention de Mme Coste.
Moi, je voudrais savoir au niveau de la transmission, moi, chez Vébran, et au niveau de mes propres enfants, on n'a pas l'impression qu'il y ait un grand intérêt comme notre génération. Alors, est-ce que vous pensez que les générations qui arrivent, avec le brassage des populations, est-ce que vous sentez ce désir, ce besoin?
Oui. C'est vrai, c'est vrai que vous avez certainement un peu raison. Ils sont sollicités, nos enfants, par une foule d'informations extrêmement variées, importantes, avec des technologies. Voilà. Alors, tant qu'ils sont encore assez petits, moi j'ai l'expérience, c'est mon petit-fils qui a 6 ans, je le passionne encore beaucoup avec toutes ces histoires-là. Et combien de temps ça durera, je n'en sais rien. Mais il est autant passionné ce que je n'étais moi avec mon grand-père. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Alors, ceci étant, il y a aussi des phases. Moi, je vois avec mes propres filles que j'ai saoulées et qui en avaient un peu ras la casquette, il faut bien le reconnaître. À la maison, on ne parlait que de ça, on ne recevait que des gens avec qui on parlait de ça. Enfin, c'était dimanche après-midi. Matin déjà on allait au culte et puis l'après-midi on allait voir des paysans, voir un truc dans la nature, un château fort, enfin ceci fait bon, c'était bon, tout, ouais. Donc elles en avaient un peu à la casquette, puis ça a décanté, puis il y a eu un retour et un intérêt, voilà. Alors peut-être aussi cette mémoire et cette transmission peut-elle se faire à différents niveaux. Il faut leur donner le sentiment d'avoir des racines. Ça, c'est déjà important. Qu'ils connaissent par cœur l'histoire de leurs ancêtres ou les techniques traditionnelles, tout ça, on s'en fiche peut-être un peu. Il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Je crois que ça, pour l'homme, c'est extrêmement important. Lévi-Strauss disait qu'un peuple qui n'avait pas d'histoire n'avait pas d'avenir. Et donc, je crois que c'est important qu'on leur transmette au moins ça. Après, il y en a qui vont s'intéresser plus que d'autres, acquérir davantage ces connaissances traditionnelles, d'autres qui vont s'en passionner, il y a encore aussi aujourd'hui des étudiants qui se passionnent pour ces questions-là. Mais, donc je le vois avec les scolaires que l'on a au musée, on essaie d'avoir une démarche pour leur faire prendre, et en général ça marche bien quand même. Moi, très très sincèrement, avec des scolaires et même des classes très très difficiles, on arrive avec certaines formes de pédagogie à les intéresser. Ouais, je vois à une époque, le Conseil général a mis en place des classes d'établissements très défavorisés, de Nîmes en particulier, où on recevait des enfants au niveau de la châtaigne. Ils ne savaient pas ce qu'était une châtaigne, ils n'en avaient jamais vu. Ils ne savaient pas ce qu'était une châtaigne. Autant vous dire que eux, leurs racines en Cévennes, ils n'en avaient pas. Hein. C'était extrêmement difficile. Mais on avait fait des trucs au travers du goût. Ça, la châtaigne, c'est. Voilà. Et puis, ça a un goût. Et puis, autrefois, il y avait des produits, des façons de les préparer, traditionnelles. On faisait goûter. Bajana, ça a ce goût. Confiture de châtaigne, ça a ce goût, etc. Puis aujourd'hui, on fait d'autres produits avec ça. Et avec des formes comme ça, on arrivait à avoir de très très bons résultats. Et puis, vous savez, c'est très bizarre. Une fois, j'avais un groupe où il y avait un petit maghrébin qui était insupportable. C'était une panique, ça n'intéressait pas. Évidemment, lui, c'était pas ses racines, il n'avait rien à cirer du musée. Et puis, on est arrivé dans la cuisine, et sur la table, il y avait un pain de sucre, comme on connaissait autrefois, et qu'on utilise toujours au Maghreb. On a vécu ça dans l'Atlas, on casse le pain de sucre, on sucre le thé avec ce sucre-là. Et ce gamin, devant cette table, comme au bled. Et là, on a eu la conjonction qui a fait que, mais s'il y avait ça, peut-être que tout compte fait, ce qui était autour n'était pas inintéressant. Et ce gamin qui, dans la première moitié de la visite, nous avait vraiment posé problème et perturbé la visite, s'est complètement intéressé parce qu'il y a eu le pain de sucre qui avait fait un déclic. Non. Quelquefois, ça tient à peu de choses. Bien sûr, il n'était pas question pour nous de lui faire croire que ses ancêtres étaient gaulois et que ni même à ses venons.
Merci beaucoup, M. Travier. Bien, alors donc, je précise que la prochaine rencontre au coin du livre aura lieu ici même le 18 mars. Ce sera M. Versier qui viendra nous parler de Albin Perron. Donc un homme saisi par le réveil et donc qui développera toute la vie de cet homme et de son aventure. La librairie organise cette année un cycle de conférences comme les années précédentes. Cette année, il est consacré au protestantisme pendant le grand siècle, donc à peu près entre 1590 et 1690. Hein, donc pendant le règne, on s'attardera surtout sous le règne de Louis XIV. Et donc la première conférence aura lieu le lundi 28 février pendant la semaine Sevenol. Elle aura lieu cette fois au Capitole, exceptionnellement, et non pas à la médiathèque, avec Yves Krumenacker, donc, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université de Lyon, et Marianne Carbonnier, hein, qui est conservatrice adjointe du Musée du Désert et maître de conférence d'histoire moderne à la Faculté de théologie de Paris. Le sujet, hein, ce sera donc la montée des violences et le choc de la révocation de l'édit de Nantes et ses conséquences ici dans les Cévennes. Donc première conférence du cycle, hein, du protestantisme pendant le grand siècle. Nous vous remercions de votre attention, d'être venu ce soir. Nous vous souhaitons un bon retour. Pour ceux qui le souhaitent, il y a encore des petits gâteaux, de quoi se désaltérer aussi à la librairie. Profitez-en. Merci beaucoup.